Sur Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne et aujourd'hui avec moi dans ce studio, il y a beaucoup d'invités. Mesurez votre chance, chers auditeurs, nous recevons plusieurs représentants du département LEA, langue étrangère appliquée. Ils viennent nous parler de la semaine de l'interculturalité, où j'ai réussi à le dire. Et ensuite, nous écouterons aussi les étudiants Relais Santé qui sont venus nous parler du mois sans tabac. Mais pour commencer cette émission, je souhaiterais que l'on parle un peu du département LEA. À quoi ça correspond, à quoi servent ces études? Et pour répondre à ces graves questions, il y a ici Monsieur Lopez, vous êtes directeur du département, bonjour.
Bonjour.
Et il y a également Sarah Porcheron, vous êtes enseignante, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, est-ce que vous voulez expliquer pour nos auditeurs qu'est-ce que le département LEA? Qu'est-ce qu'on y enseigne et pourquoi?
Je me permets. Donc, le département LEA, c'est le département de langue étrangère appliquée. C'est une licence en 3 ans où les étudiants vont faire des études de langue et de matières d'application. Donc, droit, communication, économie, informatique. Et puis en langue, il y a une langue A, l'anglais, dans l'occurrence, c'est le choix en langue B. Donc il y a l'espagnol, l'allemand, l'italien, et depuis l'année dernière, on a le chinois également. Donc les étudiants vont faire des études de langue et vont aussi en même temps faire des études des matières qui ont à voir avec l'entreprise, le monde économique, le monde de la gestion. Et puis la particularité importante, c'est que les étudiants vont tout le temps avoir travaillé dans plusieurs langues, aussi bien dans la langue A, c'est en anglais, et puis en langue B, soit le chinois, soit l'allemand, soit l'italien, soit l'espagnol. Voilà.
Oui, puis également, ce sont des études qui sont vraiment axées sur l'international, puisqu'en troisième année, ils partent soit en stage au deuxième semestre à l'étranger, soit en échange universitaire, et puis également en master. Donc voilà, ils sont vraiment amenés à voyager tout le temps.
Alors, est-ce qu'il y a un niveau requis pour entrer dans ces études? Je pense notamment en langue.
Oui, effectivement, il y a un niveau requis, c'est, on dit toujours, le niveau bac, donc B1, B2, sauf pour le chinois, donc pour les chinois aussi, mais il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignement en lycée ou en chinois, donc il y a la certification des chinois, soit ça, soit les étudiants, cette année, après la mise en place du Parcoursup, donc ont la possibilité de faire ce qui s'appelle un parcours WISI, où les étudiants vont faire plus des heures qui sont prévues en licence, 10 heures supplémentaires pour atteindre un niveau assez bon à la fin de la première année.
Et quand même, une autre question à propos du niveau de langue, est-ce qu'on propose ou est-ce que c'est obligé pour ces étudiants de passer des diplômes qui certifient d'un certain niveau de langue? Je pense par exemple au TOEIC, au TOEFL, ces choses-là, au Goethe. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait?
Non, c'est pas nécessaire. En fait, du moment où l'étudiant a fait des études de langue au lycée, ou a étudié la langue A ou la langue B, et la langue B au lycée, donc voilà, et il est automatiquement accepté en licence.
Alors je pensais plutôt à l'issue en fait de la formation.
Justement, non plus, parce que à l'issue de la formation, l'étudiant est censé avoir un niveau C1, donc ils font plus de entre 8 et 10 heures par semaine de langue, soit en langue A, soit en langue B, et dans les deux, je veux dire. Voilà, ils ont un niveau assez bon en langue.
Voilà, donc c'est du plus si un étudiant souhaite avoir ça, c'est son droit, mais ce n'est pas une obligation.
Oui, les étudiants peuvent après choisir de faire de passer un diplôme, mais je pense que ces diplômes sont faits plutôt pour des étudiants qui font pas vraiment des études de langue, qui veulent après avoir ces certifications.
Voilà, donc en fait, l'idée, c'est de dire que vos étudiants sont déjà spécialistes. Donc en fait, rien ne sert pour eux d'avoir un diplôme puisqu'ils sont déjà spécialistes.
Tout à fait. Donc les étudiants sont déjà spécialistes. Donc ils ont fait des études, pas seulement des études des langues à proprement parler. Ils font des études des traductions, ils font des études de grammaire. Ils étudient les civilisations des pays concernés. Donc ils ont un tout qui leur fait avoir, enfin, d'être de facto des spécialistes.
Est-ce que vous voulez détailler l'un ou l'autre, qu'est-ce qu'on entend par les niveaux B1, B2, A1E, ça correspond à quelles compétences? C'est-à-dire qu'on sait faire quoi quand on a un niveau B1 et on sait faire quoi d'autre quand on a un niveau A1 à peu près? Parce que c'est quand même une classification qui est spécifique, c'est pas une invention d'université de Tours. Donc d'où ça sort et à quoi ça correspond?
Alors après, ça c'est vrai que ce sont des normes en fait, de toute façon, qui sont établies par le ministère. Après, il suffit de voir après au niveau des niveaux A1, qu'est-ce qui est demandé. Normalement, on considère qu'un C1, c'est bilingue. A1, c'est un niveau débutant, si on veut avoir à peu près une échelle pour comprendre. B1, B2, c'est... Alors, B2, c'est un peu plus, bien sûr, c'est intermédiaire plus, je dirais. Voilà, c'est plutôt ça.
Donc, ces certifications sont nées dans l'Union européenne. Donc, c'est un cadre, ça s'appelle les cadres européens des langues. Et donc, ça a été fait pour harmoniser les niveaux des langues au niveau européen. Et depuis quelques années, ça a très bien fonctionné parce que tout le monde s'est mis à parler des niveaux dans ce sens. Après, les cadres est un peu compliqué, je ne l'ai pas en tête, mais il y a tout un cri pour chaque compétence, pour les quatre compétences, donc la langue orale, la langue écrite, parler et la compréhension. Et il y a toutes les tâches sont répertoriées dans ces cadres. Donc on considère que l'étudiant peut avoir ces niveaux s'il arrive à dans toutes les compétences à être capable de faire toutes ces tâches qui sont répertoriées.
Et alors, nous avons ici justement deux étudiants en LEA. Alors, madame, monsieur, tout d'abord, est-ce que vous voulez bien vous présenter et dire à nos auditeurs pourquoi vous avez choisi ces études? Ah, vous n'allez pas y couper à cette question.
Bonjour, donc, je m'appelle Louison, donc je suis en troisième année de LEA, j'ai 25 ans et aujourd'hui... en fait, j'ai choisi LEA, j'ai changé de parcours, j'étais en droit langue et après avoir, j'ai travaillé un an aux États-Unis et quand je suis revenu, j'ai décidé de changer de parcours professionnel et je me suis dit, je veux travailler dans le commerce international. Et pour cela, il faut parler plusieurs langues, c'est important. Donc l'anglais était déjà en quelque sorte acquis, mais il fallait une deuxième langue, donc j'ai choisi l'espagnol, donc je fais anglais-espagnol. Sachant que j'avais des bonnes bases en allemand, j'ai aussi choisi en troisième langue l'allemand, parce qu'on a la possibilité de choisir. Et du coup, maintenant je suis en troisième année. Le semestre prochain, comme l'a énoncé une de mes enseignantes, du coup, c'est pour moi l'occasion de partir à l'étranger, donc de travailler en stage, puisque maintenant j'ai fait assez d'études et je voulais en fait une formation assez professionnalisante pour pouvoir directement rentrer sur le marché du travail avec une expérience professionnelle. Et du coup, même si je continue sur le master, j'ai donc la possibilité en 3 ans de faire 3 stages. De 6 mois, donc ce qui est vraiment, vraiment très intéressant, et c'est pour ça que j'ai choisi cette filière.
Bonjour, alors moi c'est Lucie, je suis en deuxième année. Comme Louison, j'ai aussi changé de parcours au cours du temps. Avant j'étais en droit. Je me suis redirigée en LEA parce que j'ai toujours aimé faire des langues, aimé voyager, et j'ai jamais su vraiment jusqu'à maintenant ce que je voulais faire exactement. Et c'est ça qui était bien avec la formation LEA, c'est que ça nous permettait d'avoir une formation assez large, mais en même temps assez complète sur tout ce qui est à l'international, dans le commerce, la gestion. On apprend à monter une entreprise pour soi-même. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est la formation assez complète, mais en même temps assez généralisante, qui nous permet de nous ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. En première année, je fais anglais parce que j'ai toujours eu des facilités en anglais. J'ai choisi espagnol parce que du coup, le monde de l'Amérique latine, l'Espagne, tout ça, ça me parle. Et j'ai pris une langue C chinois, donc je suis débutante. Et c'est une très belle découverte, franchement. Je suis assez contente que l'Université de Tours ait réussi à proposer cette formation. Et c'est une très belle découverte.
Alors peut-être une réaction des deux professeurs. Je vois que vous avez l'air content de ce que disent ces deux étudiants.
Ouais, on les a bien briefés.
C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. Le billet, ce sera hors tête. Et donc, voilà ce que disaient Lucie et Louison. On est très contents. C'est vrai que, disons, ce qui fait un peu la richesse d'LEA, c'est qu'on a vraiment des étudiants qui sont axés sur l'international et du coup sur l'interculturalité. Et voilà, on espère, on sait, voilà, en plus, alors c'est un hasard, mais en plus, ce sont deux étudiants qui ont été réorientés, comme quoi tout va bien, hein, ça se passe bien. Et voilà, c'est une formation qui est vraiment axée sur tout ce qui est l'échange entre les cultures. Enfin, je pense que, en tout cas, les deux échantillons qu'on a ici en sont la preuve.
Oui, et c'est très bien. Donc, je suis très content de ce qu'ils ont dit. Ils sont très motivés, c'est très bien. Revenir sur cette idée du départ à l'étranger en troisième année, deuxième semestre. Donc, tous les étudiants à Touron, en LEA, partent obligatoirement à un séjour en université pour la plupart ou en stage à l'étranger, en semestre. Donc, c'est une particularité à LEA Touron. Donc, c'est pas je pense que c'est la seule fac LEA Tours, enfin c'est la seule licence LEA Tours, LEA, qui fait ça, enfin qui propose, enfin qui oblige en quelque sorte les étudiants à partir à l'étranger. Donc ça leur fait déjà une richesse de rencontres, mais aussi pour la langue c'est très bien. Et la découverte, ça peut se faire au niveau universitaire ou au niveau entreprise.
Eh bien, merci pour cette présentation du département LEA de l'Université de Tours. Je propose une première pause musicale et après, on parlera de cette fameuse semaine de l'interculturalité qui a lieu du 12 au 15 novembre 2019. Et nous allons écouter le duo Garcia. On se retrouve tout de suite après dans la Méridienne. Léo Garcia sur Radio Campus Tours. Vous écoutez toujours La Méridienne et nos invités représentent le département LEA de l'Université de Tours. Alors, vous êtes venus, mesdames, messieurs, entre autres pour présenter aussi la semaine de l'interculturalité qui se tiendra du 12 au 15 novembre 2019. Tout d'abord, peut-être peut-on expliquer en quoi ça consiste? Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est un projet qui existe depuis longtemps au sein du département LEA?
Donc, c'est un projet tout à fait nouveau. On est à notre deuxième édition. Donc, la première édition qui s'est passée l'année dernière, c'était très positif, mais un peu créé dans la précipitation, si j'ose dire, parce qu'on s'est pris un peu tard et bon, ça s'est bien passé. Mais cette année, on a beaucoup travaillé depuis le mois de mai, l'année dernière, avec les étudiants, avec les enseignants, les collègues. Cette idée est venue parce qu'on voulait offrir aussi, à part les cours traditionnels, faire un relais entre le monde des langues et le monde de l'université. Et on était bien placé pour ça parce qu'on est en licence des langues. Donc, avec ma collègue Teresa Ricci et d'autres collègues, on a réfléchi à quoi faire l'année dernière. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée de travailler sur l'idée de l'interculturalité. Voilà. Et c'est sorti la semaine de l'interculturalité.
Oui, alors cette année, en plus, on a de la chance parce qu'on a encore plus d'activités que l'année dernière. Et donc, on a aussi bien donc, la base des activités qui sont en priorité par rapport aux langues qu'on propose en LEA. Et également, alors notamment, je pense à l'atelier de danse tahitienne ou de danse indienne qui sont un petit peu, voilà, enfin, c'est une autre façon aussi d'aborder l'interculturalité qu'on ne propose pas en LEA, hein, qui est extérieure, puisque bien sûr, on ne propose pas ces langues-là. Donc voilà, c'est à la fois et LEA et un petit peu à l'extérieur aussi.
Oui, il s'agissait de faire une découverte, pas seulement par les langues, mais aussi par la culture, en fait, qui les langues véhiculent. Et on ne voulait pas se cantonner à tout ce qui est la langue qu'on travaille, mais aussi à d'autres horizons.
Alors peut-être qu'on peut détailler un peu ce programme qui en effet est très dense, hein, donc des ateliers, conférences et rencontres, concours, jeux de rôle, concerts, gastronomie, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, disons, pour tous les centres d'intérêt, pour tous les publics. Est-ce que vous voulez nous expliquer comment vous avez construit ce programme et qu'est-ce qu'on y trouve un peu plus précisément?
Donc le programme s'est construit, l'idée c'était d'offrir, bon, toujours d'offrir aux étudiants d'aller un peu plus loin dans leurs études par les conférences. Par exemple, on peut trouver une conférence sur le marketing, l'interculturalité. Les étudiants, déjà, ils ont des matières de marketing dans la licence, mais ça allait un peu plus précisément sur cette idée de l'interculturalité. Ou par exemple, une conférence sur le monde qui visait surtout à ces étudiants qui font pas le forcément qui n'ont pas choisi la licence les parcours chinois ou d'autres étudiants de la faculté qui voulaient connaître en fait tous les particularités à ce monde immense qui est le monde sinophone qui va au-delà de la Chine. Et après on voulait, bon, je cède la parole à ma collègue peut-être pour parler des ateliers, parce que les ateliers c'était une idée pour nous peut-être la plus intéressante, parce que ça faisait participer les étudiants et travailler les étudiants précisément à des choses plus...
Oui, alors par rapport aux ateliers, effectivement, donc c'est... alors, par contre, je précise que pour les ateliers, il y aura des places limitées. C'est pour ça que ce sera sur inscription. Mais ça, toutes les informations sont sur le site LEA. Et effectivement, le but des ateliers... Alors, on propose un peu de tout, hein, comme vous disiez. C'était jouer vachement sur l'interaction, hein. Que ce soit pas uniquement de la théorie, alors par exemple je pense effectivement à l'atelier de danse, il y aura certes une démonstration de danse, mais ce seront aussi les étudiants ou les enseignants, s'ils participent également, qui pourront danser, qui pourront y participer. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, et puis aussi c'est peut-être, je pense aussi à l'atelier par exemple de percussion péruvienne par exemple. J'ai envie de dire, venez peut-être avec vos a priori ou pas. Et puis, c'est aussi de démontrer, voilà, peut-être que le Pérou, on peut penser que c'est beaucoup la flûte de Pan, le poncho, certes, ça existe, mais pas que. Et donc, il y a plein d'autres choses. Donc, c'est aussi ça aussi, cette semaine de l'interculturalité, c'est aller au-delà de l'idée qu'on peut se faire d'une culture, finalement. Et bien sûr, alors, en tout cas, les ateliers ont été pensés sur, pour ça, c'est-à-dire vraiment dans, sur ce principe d'interaction entre l'intervenant et avec les étudiants, et bien sûr entre les étudiants eux-mêmes.
Alors peut-être qu'on peut dire un mot aussi sur qui est Mario Dravé, parce que son nom apparaît plusieurs fois dans cette programmation. Donc c'est notre experte en danse. Qui est-elle ?
Alors Marie-Aude Ravé, alors c'est justement c'est l'étudiante qui Elisa Miralles, on va faire une petite dédicace, allez, qui la connaît bien en fait, n'est pas là et qui fait partie de l'association Aléate. Donc je pense, elle est professeure de danse, elle propose justement différents types de danse de différents pays. Alors nous on va la connaître, je vous avoue que je vais pas vous mentir, moi je la connais pas, on va la connaître, on a hâte de la connaître. Mais effectivement, elle revient plusieurs fois. Elle a accepté d'animer plusieurs ateliers, Marie-Aude.
Donc, le principe était de proposer des activités. On a demandé aux étudiants de proposer des activités, aux collègues de proposer des activités. Donc, notre étudiante, Elisa Miralles, elle a proposé cette activité. Donc, nous, c'est elle qui gère. D'ailleurs, c'est son email qui est sur l'affiche, parce que c'est elle qui gère toute l'activité.
Voilà, donc, bon... Tant pis, moi je le dis, Marie-Aude Ravé, c'est l'association Aux Quatre Vents. Donc c'est une association culturelle qui en effet propose des cours de danse du monde, mais aussi quelques initiations à la gastronomie pour les enfants, sur les cuisines du monde et toutes ces choses. Et voilà, donc Marie-Aude Ravé intervient dans des crèches, donc là évidemment pour ses petites initiations, et sur tout public, elle fait aussi donc, la danse tahitienne. On peut le rappeler, c'est pas que pour les femmes, il y a aussi des hommes dans son cours de danse tahitienne. Et pour les gens qui sont curieux, sachez qu'elle fait aussi des chroniques culturelles sur RCF. Voilà.
Merci beaucoup.
Alors, on a parlé de la danse, aussi du cycle de conférences. Il reste aussi les concours, jeux de rôle, concerts, gastronomie, et j'ai sûrement oublié des choses. Ah, je vois qu'on passe le micro à quelqu'un qui est dans le public, qui ne s'était pas encore exprimé pour le moment, c'est... Anna Krikoun qui nous rejoint. Bonjour.
Voilà, bonjour, je suis ravie de faire partie de cette émission. J'ai voulu proposer quelque chose en fait que j'espère sera d'ici quelques années l'événement emblématique de la formation LOA. Il s'agit notamment en fait de ce que j'appelais de façon prétentieuse, sinon ambitieuse, la coupe du département LOA. C'est une série de jeux sur la langue et les langues, sur ce que la langue disent, sur ce que les langues nous font dire, sur ce que certaines langues, en fait, ont de l'intraduisible pour les autres langues. J'ai proposé ce concours, en fait, pour tous les amoureux de langue, pour ceux qui aiment inventer les mots, pour ceux qui s'amusent à faire des mots d'esprit, pour ceux qui adorent des charades, des devinettes, pour ceux qui sont enthousiastes à l'idée de traduire. Voilà, je pense que c'est la passion aussi, en fait, la passion pour la langue, pour les langues qui aiment bien, et que je voulais partager avec les autres en proposant ces jeux.
Alors peut-être un mot sur la place de l'humour aussi dans les échanges interculturels, parce que c'est sûrement aussi un des lieux où on peut faire le plus de catastrophes, ou au contraire créer du lien, parce que ce qui peut être amusant et drôle dans une culture ne l'est absolument pas dans une autre, je suppose. Et donc là, s'intéresser aussi à l'humour, aux jeux de mots, des choses comme ça, c'est sûrement un atout pour éviter les bourdes en contexte interculturel.
Puis évidemment, il y a une petite visée pédagogique dans tout cela, c'est-à-dire explorer la traductibilité. En fait, ça permet d'éviter les bourdes, les malentendus, mais c'est aussi quelque part le moyen de se désinhiber, de se dire que voilà, faire une gaffe quand on parle une langue, la sienne ou la langue qui n'est pas maternelle, ce n'est pas grave. Faire un lapsus, ça n'a rien de grave, ça permet justement peut-être de s'approprier un tout petit peu plus librement la langue, voilà, de faire de la langue l'instrument de son expression.
Sachant qu'en plus, vous le savez, puisque vous êtes tous des spécialistes de langue, c'est en mouvement une langue, c'est pas arrêté. Donc en fait, elle s'invente, elle se construit tout le temps.
Mais des fois, il y a certaines institutions, pour ne pas les citer en fait, les immortels, donc il y a certaines institutions qui se permettent une sorte d'appropriation de la langue, c'est-à-dire il y a des institutions où de maîtres de langue en fait qui veulent occuper la position privilégiée et quelque part qui veulent ériger leur propre pratique de la langue en norme pour tout le monde. Donc je crois en fait qu'il y a eu quelque chose de rebelle ou d'iconoclaste en fait dans le geste de proposer ces concours, puisque je voulais dire que justement les langues ne sont pas figées, que personne n'a le droit de le figer, que tenter de figer une langue, c'est tenter de l'étouffer. Et du coup, c'est nous qui parlons la langue au jour le jour. C'est nous qui la maîtrisons. Je ne dirais pas que nous sommes le maître de la langue. Peut-être c'est la langue qui est notre maître. Dans tous les cas, en fait, nous devons avoir cette liberté de manier la matière linguistique, que ce soit les sons ou bien les vocabulaires, les registres de langue, les styles.
Voilà, une dernière chose avant de passer, parce que le programme est dense et nous avons ici quand même deux étudiants qui se sont investis là-dedans. Je pense juste à un livre de Lydie Salvert, en fait, qui s'appelle « Pas pleurer » et elle raconte que sa mère parlait fragnol, justement un mélange français et d'espagnol, et qu'en fait, enfin, elle en avait honte, et que finalement, plus elle a grandi, plus elle a trouvé que cet aménagement de la langue était intéressant, parce qu'elle portait l'histoire et la culture aussi de sa mère. Et donc là, je pense à ça en vous écoutant, Anna Krikoun. Là, je fais un blanc à l'antenne.
Oui, évidemment, je crois en fait que Lydie Salvert, c'est un prix Goncourt d'il y a 2 ans, ou d'il y a 3 ans, je ne me souviens plus. Mais je crois en fait que nous sommes de plus en plus en fait tous dans la situation de Lydie Salvert, puisque le monde qui devient de plus en plus ouvert, de plus en plus sans frontières, de plus en plus mondialisé, là, ce monde en fait ne connaît plus d'histoire ou d'identité heureuse, stable, où en fait, il le connaît de moins en moins. C'est-à-dire, nous sommes tous amenés à parler plusieurs langues. Là, en fait, nos étudiants que je vois ici, en fait, qui sont tous trilingues, en fait, et il y a forcément un moment dans leur vie où ils ont eu pour la première fois un rêve en espagnol ou en anglais. Il y a eu un moment, en fait, où spontanément, ils ont ouvert la bouche dans le supermarché et le mot qui est sorti, en fait, c'était le mot qui n'était pas de leur langue maternelle. Donc, en fait, nous vivons tous de plus en plus, en fait, dans le monde où les langues se croisent, se mélangent. Et nous sommes quelque part, en fait, tous dans l'état d'esprit de Lydie Salvert, c'est-à-dire nous parlons des fragnols ou des franglais ou nous parlons, en fait, d'autres mélanges de langues qui nous habitent.
Voilà, et sur ces mots, je passe la parole à nos deux étudiants. Alors, vous représentez ici l'ALEAT, l'association des étudiants de LEA. Peut-être que ce n'est pas tout à fait ça, vous allez pouvoir nous le préciser. Est-ce que vous voulez nous dire quel a été votre rôle dans cette programmation de la semaine de l'interculturalité ?
Alors, effectivement, c'est l'association des LEA de Tours, donc ALEAT. Donc, déjà, pour commencer, nous, en fait, on représente les étudiants LEA. Donc, vraiment, on les représente, mais on les aide aussi dans leur vie étudiante. Donc, c'est pas seulement pour l'administration, pas seulement pour les cours. On les représente partout et on essaie d'organiser des événements aussi de notre côté pour les inciter à sortir, à aller rencontrer d'autres personnes. Tout ça dans le cadre de la LEA, dans le sens où voilà, nous, ce qu'on essaie de leur montrer, c'est que voilà, des fois, c'est difficile. Il faut qu'ils qui réussissent à passer certains caps pour, voilà, pour passer la première année, par exemple, parce que c'est souvent là où le problème se pose. Après, voilà, nous, on est là pour principalement les représenter, donc auprès des profs, auprès de l'administration, organiser des soirées étudiantes, hein, comme toutes les associations étudiantes. Mais voilà, on essaie de participer au projet de la fac en tant que telle, et du coup, ici, du département LEA, en aidant à l'organisation de ces événements-là, et puis on essaie de participer activement, ça nous fait plaisir, et puis en plus les étudiants généralement ils s'accrochent, enfin, voilà, ils accrochent vraiment, parce que ils voient que il y a de l'organisation qui vient de d'autres étudiants et pas que de profs qui eux ça leur paraît très lointain des fois, malheureusement, alors que pas du tout, et puis ça peut les inviter à participer plus, quoi.
Et alors, sur cette fameuse semaine, qu'avez-vous proposé, fait, construit, inventé?
Alors nous, on propose dans le cadre de l'Aléate une soirée un peu plus festive, donc en dehors de la faculté. On propose la soirée Conversation Night, donc qui est une soirée où il est interdit de parler sa langue maternelle, où tout le monde peut échanger, et en fait, c'est un moyen de regrouper toute l'ambiance de la faculté, donc on invite les professeurs et les élèves, et tout le monde peut parler, du coup, une langue étrangère autour d'une bonne pinte de bière.
À consommer avec modération, évidemment. Bien sûr. Modération qui s'impose. Mais voilà.
Je voulais profiter de l'opportunité, en fait, pour dire que non seulement il y a les activités qui sont proposées par l'association Aléate, mais il y a également, en fait, les activités qui, même si elles n'étaient pas à la base proposées par l'association, n'auraient jamais vu le jour, en fait, sans cette association. Je pense notamment, en fait, au concours de photos sur le thème les frontières et notre capacité de dépasser les frontières. Ces concours de photos étudiantes n'auraient jamais abouti sans concours, sans aide de l'association. Puisque c'est vrai, en fait, que des fois, on a des idées. Mais sincèrement, ça dépend beaucoup de qui sera porteur de ces idées. Et en fait, même si des fois ce sont les enseignants qui ont certaines idées, le fait que l'association, en fait, accepte, et toujours avec une grande générosité, de devenir porte-parole, en fait, de certaines idées de profs, ça permet aux idées de profs justement d'aboutir, et vraiment nous sommes vraiment très ravis de faire cette manifestation avec eux, pour eux, mais surtout avec eux.
Alors, je vous remercie, c'est très gentil. Aussi, oui, effectivement, nous on a aussi l'aspect plus technique aussi qui permet d'aider un peu à l'organisation. C'est-à-dire que nous on a beaucoup dans la communication, on est assez présent. C'est-à-dire que à part les étudiants, ils reçoivent beaucoup de mails, les enseignants aussi, et des fois ils les ignorent. Nous on est là aussi, enfin, pour faire la promo sur, par exemple, sur les réseaux sociaux, ce qui permet aussi d'attirer beaucoup plus de monde, parce que ça, les réseaux sociaux, les étudiants ils les suivent chaque minute, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que c'est plus simple aussi pour la communication.
Ah, on est dans un contexte diplomatique, interculturel et intergénérationnel, alors. On peut dire ça, en fait, peut-être aussi que ça change quelque chose à la façon d'enseigner ou de rapport entre les étudiants et les élèves. Vous avez l'impression de ça, qu'un événement comme ça, ça peut changer des choses?
Absolument, absolument. Alors, déjà, démystifier un peu l'idée, enfin l'image du prof qui est vraiment qui rentre, en fait il existe que dans la salle, et après il disparaît, et puis non, il organise des choses pour les étudiants aussi, et eux, ça, voilà, les étudiants, ça leur permet aussi de se rapprocher un petit peu de cet esprit là un peu, voilà, où ils apprennent, ils sont là pas que pour apprendre en classe, mais aussi on peut leur enseigner d'autres choses, d'autres moyens. Et par exemple, nous, dans la soirée conversation, on invite aussi les enseignants donc à venir, donc on a un peu tout le monde, donc aussi ça permet de détruire un peu cette espèce de barrière qu'il y a entre les étudiants et les enseignants qu'on voit parfois.
En fait, cette barrière que des fois on peut peiner à vouloir détruire, même pas déconstruire, à détruire. Moi, je ne compte plus le nombre d'appels que je fais d'avoir une relation plus horizontale, mais en fait, inciter à avoir une relation plus horizontale, plus une relation de confiance, ça ne sert à rien, puisque à partir du moment où c'est le ou la prof qui la lance, en fait, ça revient à une sorte d'obligation ou encore une contrainte supplémentaire. Donc, en fait, dans le cadre du cours, il est vraiment difficile, surtout dans le cadre d'un grand CM, dans un amphi de je sais pas, de 200-300 étudiants, en fait, il est complètement, peut-être il est vraiment très difficile, voire impossible en fait, de détruire ce rapport très hiérarchique dans l'enseignement, alors que ça n'apporte grand-chose ni aux enseignants ni aux étudiants. Et les événements comme ça, en fait, qui montrent le socle qui nous est tous commun, c'est-à-dire notre passion pour les cultures, notre passion pour les langues. Donc, les événements comme ça, en fait, permettent de se rendre compte que nous partageons cela tous ensemble. Et le partage de ces valeurs, en fait, nous rapproche beaucoup. Et par la suite, une dernière chose, je crois fortement, en fait, que les enseignements ne se font pas uniquement... et peut-être se font le plus mal dans le cadre du cours ex cathedra, c'est que les enseignements, peut-être c'est une idée pédagogique hétérodoxe, mais je crois fortement en fait que l'enseignement est le plus efficace quand il passe par ce que Kuhn appelle le collège invisible. Donc lorsque l'enseignement se passe par la manière de faire les choses ensemble. Et là, en fait, nous avons essayé, dans le cadre de la semaine Elora de l'interculturalité, justement, de faire quelque chose ensemble autour des valeurs ou autour des biens que nous considérons comme étant primordiaux, incontournables. C'est les biens de la diversité, du respect, de l'altérité et de l'ingéniosité en fait, des nations, des cultures, des individus. Donc nous avons voulu apprendre, puisque nous apprenons aussi, en fait, nous apprenons tout le temps, en fait, qu'on soit étudiant ou prof, donc nous avons voulu apprendre quelque chose de l'autre en faisant ensemble la manifestation qui met en avant les richesses et la diversité de nos altérités.
Sarah Porcheron, vous avez envie de réagir à ce que dit Anna Krikoun ?
Oui, je suis totalement d'accord avec elle, effectivement. C'est-à-dire que, bien entendu, aller à l'université, la finalité, c'est le diplôme, mais pas que. C'est-à-dire que, effectivement, et ce genre d'événement comme la semaine de l'interculturalité, c'est aussi de montrer en quoi, voilà. C'est-à-dire que, bien entendu, voilà, on entendait Louison et Lucie qui nous disaient que, voilà, c'était dans un but professionnel, certes, mais également, voilà, c'est de montrer qu'aussi, toute cette diversité de langues que tous les jours, finalement, les étudiants ont et manipulent, il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a de la civilisation, il y a des complexités linguistiques, il y a des complexités ou des diversités culturelles. Et ça a été fait aussi, à mon avis, dans cet esprit-là, la semaine de l'interculturalité, pour sortir un petit peu du cadre académique aussi. Et ça fait du bien.
Est-ce que vous pensez que cet autre fonctionnement, ça peut faire tache d'huile dans d'autres... UFR, enfin dans d'autres départements, ce fonctionnement de...
Oh bah c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Ouais, j'espère bien, oui. Alors après, je pense que dans d'autres UFR, je l'espère, hein, il y a d'autres types de manifestations de ce genre qui se font, mais bien entendu, alors là, si on pourrait être un exemple, on en serait très content.
Là, parce que l'idée du métissage, de l'interculturel, c'est aussi des problématiques qui peuvent intéresser de près les départements, j'imagine, les études de sociologie, anthropologie, je ne sais pas s'il y a à Tours, mais si. Donc voilà, là, ça peut être aussi des gens qui peuvent être peut-être force de proposition si vous faites quelque chose en commun avec eux.
Si, absolument. C'est-à-dire que là, pour la prochaine année, maintenant c'est trop tard, le programme est bouclé, mais... Pour la prochaine année, effectivement, on n'est pas du tout. Ça nous ferait énormément plaisir, par exemple, d'avoir un sociologue qui viendrait de nous faire une conférence sur l'interculturalité. Ce qu'on voudrait aussi, c'est on voudrait remercier le CUEFE avec lesquels on est en collaboration. L'UFR de Lettres et Langues qui nous a bien entendu soutenus et bien entendu l'association Aléat, hein, on est là pour les remercier aussi, ouais. On est là pour les remercier et parce que aussi, enfin c'est un point qui en tout cas moi je tenais à le mettre en valeur, c'est pas évident d'associer une vie étudiante et une vie associative, et ils le font très bien, ils ont toujours répondu présent à toutes les activités qu'on a proposées.
Je rejoins Sarah également pour dire que les pistes pour l'avenir, les pistes pour la 3e, 4e, 5e édition de la semaine de l'interculturalité sont multiples. Donc déjà pour l'année prochaine, en fait, on a plein de propositions d'action in situ, en partenariat avec différents établissements culturels, notamment le CCOD, le Théâtre Olympia, le Temps Machine, en fait.
Radio Campus,
bien évidemment. Radio Campus, je crois en fait que la collaboration, en fait, elle est déjà bien en place, en fait, à partir de la 2e édition. Mais pour la 3e, en fait, on a beaucoup de propositions, en fait, d'actions communes avec différents établissements culturels en tout ce qui est le théâtre, musique, la création visuelle contemporaine, la performance, puisque vraiment la thématique de l'interculturalité et surtout la thématique de l'interculturalité comme source d'invention et de richesse, là, c'est quelque chose en fait qui est dans l'air du temps et ça parle vraiment à tout le monde. Et j'ai vu un intérêt qui est si grand en fait que je crois que la 3e édition aura encore plus d'événements et aura de quoi étonner ceux qui ont suivi la 1ère et la 2e.
Voilà, donc on rappelle Semaine de l'interculturalité du 11 au 15 novembre 2019, un événement qui est porté par le département LEA de l'Université de Tours. Alors, le mot de la fin, je vois Monsieur Lopez, directeur du département, qui revient vers le micro.
Oui, si vous me laissez le mot de la fin, je voulais insister sur le remerciement, enfin remercier l'UFR de l'autre langue, enfin son doyen, Monsieur Alexis Choumelou, et de son soutien et de son implication évidemment, et puis le QFE effectivement qui est le centre de langue pour étrangers, en fait, qui est un centre très actif, qui reçoit des étudiants de tous les horizons, et qui cette année vont participer, donc ils proposent une activité, ça s'appelle un chat dating, où les étudiants vont parler pour les cours en anglais ou en français avec des étudiants venus de partout en fait qui apprennent le français au QFE. Et bien évidemment, ça a été dit et je remercie encore le travail des étudiants en général, mais aussi particulièrement le travail de l'association Aléat.
Voilà, alors peut-être avant de faire une pause musicale pour laisser le temps à nos étudiants Relais Santé de s'installer derrière les micros, Lucie, Louison, est-ce que vous voulez rappeler où on peut retrouver les informations de votre association? Je suppose que vous avez une page Facebook ou Instagram ou Twitter ou que sais-je?
Alors exactement, on a une page Facebook et Instagram, donc elles ont le même nom, c'est Aléat. On a aussi une page Facebook pour directement toutes les questions de cours, tout ce qui est relié vraiment aux cours en eux-mêmes, c'est LEA Tours. Rien de plus simple.
Ah oui, on propose aussi des... Enfin, en gros, on est en relation avec des professeurs qui peuvent nous donner des propositions de stage, en fait, qu'on publie directement pour que les étudiants y aient accès et puissent postuler. Ceux qui cherchent, ceux qui sont en recherche. Donc du coup, voilà, on a aussi ça sur notre page Facebook. Et puis bien sûr, on a la page Instagram, ouais. Asso.aléat.
Voilà, à bon entendeur. Et où peut-on retrouver le programme complet de cette semaine interculturelle?
Bon, on peut les trouver un peu partout dans l'université parce qu'on a fait coller des affiches dans toutes les facultés. On peut trouver sur Internet, sur les sites LEA. Et il y a un site dédié expressément à la semaine LEA de l'interculturalité. Et puis, on a envoyé sur les web de l'université où toutes les informations sont présentes aussi.
Eh bien, il me reste à vous remercier. Lucie, présidente de l'Aléat, Louison, vice-président, et évidemment, mesdames Sarah Porcheron et Anna Krikoun, enseignante, et monsieur Lopez, directeur du département. Merci à vous d'être venus dans la Méridienne pour présenter le département et cette semaine de l'interculturalité
qui se tient, rappelons-le une dernière fois, du 12 au 15 novembre. Pause musicale pour laisser aux étudiants Relais Santé le temps de s'installer dans le studio. Nous écoutons le bal des oiseaux et c'est, je ne sais plus, mais je vous le dirai après. Voilà, j'ai retrouvé le nom de ces artistes exceptionnels sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne. Grand merci à nos invités venus représenter le département LEA et l'association Aléate. Nous recevons à présent, comme promis, deux étudiants Relais Santé. Mathilde Bourris, bonjour.
Bonjour.
Et Raphaël Suzanne, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, vous êtes venus nous parler du mois sans tabac. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Alors effectivement, nous sommes venus vous parler du mois sans tabac parce que nous sommes des ERS. Alors, c'est pas forcément très connu au sein de l'université, mais ça devrait l'être. D'où notre présence. ERS, c'est étudiants relais santé. Donc, on est, comment dire, commissionné, c'est un mot qui fait un peu peur, commissionné par l'université, donc payé, pour confectionner et animer des projets de prévention. Alors, c'est de la prévention par les pairs, donc, parce que ça marche mieux d'étudiant à étudiant, c'est un rapport d'égalité, donc ça passe mieux pour la prévention en général. Donc, voilà, nous appartenons au SSU, le service de santé universitaire, que certains d'entre vous connaissent sûrement, puisque là-bas, il y a beaucoup de personnel médical et social, que ce soit des infirmiers, des médecins généralistes, gynécologues, psychologues, pardon. Et tout ça, évidemment, si vous amenez la carte vitale et votre mutuelle, ce sont des consultations gratuites. Vous pouvez prendre rendez-vous, que ce soit en ligne ou sur place. Et voilà, donc c'est quelque chose quand même qui est très important et plutôt une chouette ressource, parce que les étudiants sont une population à risque, rappelons-le, et on sait tous, c'est une période de stress entre l'adolescence, l'âge adulte, les études, etc. Beaucoup de pression, donc n'hésitez pas à venir au SSU, on a plein de ressources pour vous aider. Et voilà, donc on va vous parler des petits rappels sur le tabac et ensuite le mois sans tabac.
Alors, là, on va commencer par le contexte épidémiologique sur le tabac pour faire un petit cadre, en gros, alors, pourquoi, en gros, le mois sans tabac est utile. Donc, aujourd'hui, le tabac, la mort par le tabac, c'est la première cause de décès évitable en France. Il y a environ 13 millions de tumeurs quotidiens et 75 000 morts par an, du coup, en France, suite à ce tabac. C'est même encore plus mortel que l'alcool. Donc, c'est devant l'alcool. Donc, le tabac, qu'est-ce qu'il peut faire? Surtout, il peut provoquer des cancers, en particulier du poumon et de la vessie, des maladies cardiovasculaires, dont tout ce qui est infarctus du myocarde, et des pathologies pulmonaires chroniques, comme la BPCO. C'est une bronchopulmonaire, voilà. Donc, le tabagisme, c'est un problème de société assez important, et c'est pour ça que le mois sans tabac s'en occupe avec autant de vigueur. On peut dire aussi que depuis 2017, le nombre de fumeurs en France diminue, et il diminue drastiquement. Donc c'est grâce en fait à la mise en place de paquets qui sont de plus en plus chers, qui sont aussi avec le paquet, comment on peut dire,
générique.
Générique, voilà, merci. Et en fait, depuis 2017, on a une baisse, oui, vraiment exceptionnelle de fumeurs en France.
Une baisse exceptionnelle de...
Oui, on peut signaler aussi qu'il y a des choses qui ont été interdites. Je pense par exemple aux produits tabac qui étaient à destination des publics jeunes. Donc par exemple, les mini paquets de cigarettes où il y avait 16 cigarettes, ça a été interdit parce que c'est justement cette cible-là qui les achetait. Et aussi les cigarettes avec goût chocolat ou vanille ou des choses comme ça. C'était vraiment à destination des plus jeunes et ça a été interdit en France, il me semble.
Oui, c'est ça. Ça aide.
Absolument, il y a beaucoup de politiques qui sont menées contre le tabagisme en France, puisqu'effectivement c'est un problème de société, un problème national, voire même mondial tout simplement. Et parmi ces politiques, il y a donc le mois sans tabac. Alors mois, c'est avec ou sans S, comme vous voulez, mais nous sommes en novembre, le 4, et nous sommes donc au quatrième jour du mois sans tabac. Qu'est-ce que c'est le mois sans tabac? Je ne suis pas payé pour dire ce mot, mais je le dis beaucoup. C'est avant tout un grand défi collectif. Puisque arrêter c'est difficile, mais le faire ensemble c'est un peu plus aisé, puisque il y a une certaine solidarité, hein. Tous ensemble, fumeurs, arrêtons. Et voilà, donc des actions de prévention qui s'est ciblée notamment pour les fumeurs qui sont déjà un petit peu dans la remise en question, qui essayent d'arrêter, qui voudraient mais qui n'ont pas forcément, qui manquent un... Il manque quelque chose, il manque un déclic, quelque chose, et ce mois sans tabac, c'est fait pour ça. C'est un défi collectif, mais aussi bien individuel, puisque, tout dépend de soi. On en revient là, c'est tout dépend de soi quand même. Et pourquoi un mois? Parce que, effectivement, au bout d'un mois sans tabac, les signes de sevrage sont moins forts, et une fois que la barre des un mois est dépassée, il est 5 fois plus facile d'arrêter, enfin de ne pas reprendre, tout du moins, pour de bon.
Alors, d'où vient le mois sans tabac de base? C'est une campagne anglaise qu'on a repris en France, nous. C'est une campagne en 2012 qui a permis d'augmenter de plus de 50% le nombre de tentatives d'arrêt de tabac en Angleterre, surtout à Londres en fait. Et donc le ministère de la Santé en France s'est dit « c'est une bonne idée, on va l'appliquer aussi en France ». Donc c'est la quatrième édition du mois sans tabac, là en 2019. Alors si vous voulez quelques chiffres pour vous rassurer sur les résultats quand même de cette démarche, en 2018, lors de la troisième édition, il y avait 241 000 inscrits pour le défi, donc sur le site défi-moi-sans-tabac.fr. Donc c'est un engouement vraiment collectif, une progression de 54% par rapport à 2017. L'application a été téléchargée 86 000 fois, il y a plein de personnes, genre 21 000 personnes qui ont appelé le 3989, c'est la ligne pour avoir des tabacologues en direct. Donc il y a des milliers d'événements qui ont été organisés sur l'ensemble du territoire, notamment nous, ce qu'on fait avec le SSU, des petits stands vraiment d'information et de prévention où on distribue des kits, on va vous en reparler.
Absolument, parce que le mois sans tabac, il y a plusieurs outils qui sont mis à votre disposition pour arrêter, notamment le kit.
Alors, pour ce qui est du kit dont je parlais, c'est vraiment un outil qui est important pour suivre en tant que fumeur, essayer d'arrêter. En gros, dans ce kit, il va y avoir quatre petites choses. Il va y avoir un livret. Donc là, je l'ai avec moi. Le livret en premier qui est un livret personnalisé où on écrit à l'intérieur les raisons pour lesquelles on a commencé à fumer. C'est très, très intime. Hein. C'est un livret qui est fait exprès pour que le fumeur réfléchisse vraiment sur sa consommation. Il y a aussi un agenda qui explique jour après jour, même parfois minute après minute, ce qui change après la dernière cigarette au niveau d'un point de vue santé, d'un point de vue corporel. Il y a aussi une petite roulette financière, en quelque sorte, qui explique vraiment pour le nombre de cigarettes fumées, l'argent qu'on économise en fait par jour.
Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, par exemple ?
Alors, je regarde ça. Par exemple, pour 20 cigarettes par jour, en un jour, c'est 8,75 €. Et on pourrait économiser, par exemple, en un mois, 262,5 €.
C'est un petit pactole, quand même.
Oui. Et en 10 ans, 31 000 €. Voilà. Donc, c'est assez important, quand même. Et il y a un quatrième petit papier... avec des exercices physiques pour pouvoir respirer, déstresser, tout ça.
Voilà donc des, pardon, des aides pour arrêter. Il y en a d'autres effectivement. Le kit, mais également l'application Tabac Info Service que j'ai moi-même téléchargé ce matin et qui, donc je vous confirme, qui est très bien, qui est effectivement tout à fait personnalisable. Un peu à la manière du journal, on peut rentrer... Nos motivations, nos raisons, et c'est ça, c'est quelque chose qu'on a oublié de préciser, mais en fait, le Mois sans tabac, c'est vraiment une initiative, comment dire, positive. Dans le sens, on n'est pas là, le Mois sans tabac n'est pas là pour culpabiliser les fumeurs parce que c'est une politique qui ne marche pas, ça a essayé, les paquets, les fumées tues, on connaît tous. Non, là, au contraire, c'est vraiment dans le positif, dans. Regardez tout ce qui peut arriver si vous arrêtez de fumer, c'est bien, c'est de l'encouragement, pas de jugement. Et ça se retrouve beaucoup sur l'application. Et ce que je trouve personnellement assez utile, c'est l'envoi de petites notifications, de petits encouragements, genre « Oui, aujourd'hui tu n'as pas fumé, regarde, c'est bien. et regarde tout ce que tu as économisé, et rappelle-toi et pourquoi tu as fait ça. » Et t'envoie tes propres motivations, et je trouve ça plutôt chouette.
Ils envoient des mails tous les jours qui disent « Les industriels mettent encore plus de produits addictifs, faites attention, ils ne reculent devant rien.
» Exactement, et puis via cette application, on peut également joindre des tabacologues, on a des vidéos de soutien, de petites techniques pour arrêter ou de choses à faire. Si jamais on a envie de fumer, c'est sincèrement bien fait.
D'accord. Il y a aussi, évidemment, sur les réseaux sociaux, on peut suivre le Mois sans tabac. Par téléphone, 3989, donc du lundi au samedi, de 8h à 20h, on peut appeler un professionnel. Alors, on tombera peut-être sur un pharmacien, un médecin, ou carrément un tabacologue, donc un médecin spécialisé, pour discuter, justement, d'un parcours qui serait personnalisé. Alors, maintenant, on va parler des raisons qui poussent à arrêter. En fait, il y en a quatre qu'on a ciblées, mais il y en a certainement d'autres. Il y a l'impact sur la santé, l'impact financier, l'impact écologique aussi, qui n'est pas à dénigrer, et le tabagisme passif pour les enfants. Alors déjà, au niveau de l'impact pour la santé, il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. De base, si on attend 10 à 15 ans, l'espérance de vie redevient identique à celle d'un fumeur. Donc 10 à 15 ans après, d'un non-fumeur, pardon, 6 à 15 ans après avoir arrêté la dernière cigarette. Donc 20 minutes après avoir arrêté la dernière cigarette, la pression sanguine et les pulsations cardiaques redeviennent normales, parce qu'on a le cœur qui bat très vite après une cigarette. Ensuite, 8 heures plus tard, on va avoir une quantité de monoxyde de carbone, donc de goudron, qui va être réduite de moitié, et l'oxygénation des cellules qui redevient normale. 24 heures plus tard, les poumons éliminent du coup le reste de goudron qui est en superficie des cellules. 48 heures plus tard, le goût et l'odorat commencent à s'améliorer un petit peu, alors qu'avant, ils étaient vraiment au minimum. À 72 heures, il devient plus facile de faire du sport et de respirer. 2 à 3 semaines plus tard, la toux diminue, la fatigue diminue aussi. 1 an plus tard, le risque d'infarctus est diminué et le risque d'AVC est de même. Et enfin, du coup, ce que je disais, sur 10 à 15 ans, finalement, sans arrêter, enfin, sans recommencer, pardon, l'espérance de vie redevient normale. À noter que le tabagisme, pendant la grossesse, implique du coup des risques très importants de grossesse extra-utérine, de fausses couches, d'accouchement prématuré. Donc, il n'est jamais trop tard pour arrêter, même quand on est enceinte.
Absolument, parce qu'il peut aussi y avoir un impact sur les enfants, que ce soit donc pendant la grossesse, qui peut provoquer des dégâts irréversibles, mais également par rapport au tabagisme passif, puisque effectivement, on peut avoir tous les effets néfastes du tabac sans fumer, en étant juste fumeur passif. D'autant plus que les enfants de fumeurs sont plus prédisposés à devenir fumeurs eux-mêmes. Il y a également l'impact financier que nous avons abordé précédemment avec la roulette du kit. Donc voilà, bah, un paquet de 20 cigarettes par jour, ça coûte 10 euros. Une bonne dizaine d'euros en fonction de la marque, mais c'est une bonne moyenne. Donc au bout d'un mois, c'est ça, on se retrouve avec un petit paquet d'argent. Mais également un impact écologique qui n'est pas à dénigrer, puisque notamment bon, la pollution visuelle, mais maintenant... Aujourd'hui, malheureusement, le mégot fait partie du paysage urbain et c'est difficile de s'en détacher. On n'y fait même plus attention, sincèrement. Et essayez de regarder par terre et, sincèrement, regardez et comptez le nombre de mégots que vous voyez. Il y en aura au moins 3, peu importe où vous êtes, je pense. Et plus on regarde, plus on en trouve, en fait, sincèrement. C'est une petite expérience que j'aime bien faire personnellement. Mais également des pollutions chimiques, puisque un mégot qui soit par terre, il va en général se retrouver dans les égouts. Les égouts. On se retrouve dans la mer, et un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée. Les océans sont notre avenir. Stop, jetez les mégots par terre. Il y a tout plein de petits cendriers de poche, mais l'important, c'est d'arrêter. mais voilà, mais après arrêter, c'est bien facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Mais pourquoi c'est difficile, Mathilde?
Alors, c'est difficile pour trois raisons. C'est surtout une histoire de dépendance déjà physique, psychologique et comportementale. Déjà, physique, en fait, la substance à l'intérieur du tabac qui fait que finalement on est plus ou moins dépendant, c'est la nicotine. Quand on est en manque de nicotine, on devient anxieux, déprimé, nerveux, on n'est plus vraiment maître de ses émotions. Donc déjà, il y a cette première substance qui fait que. Ensuite, il y a la dépendance psychologique. Donc en fait, la cigarette, pour beaucoup de personnes, c'est un moyen de décompresser, c'est une cigarette dans une journée après un repas ou autre qui permet parfois de digérer, de se faire plaisir. Certains contrôlent même leurs émotions vis-à-vis de cette cigarette. Finalement, quand ils sont un peu anxieux, ils disent « bon, je vais aller fumer et ça va aller mieux ». Et il y a la dépendance comportementale, bien sûr, qui est liée aux habitudes, qui est, à mon avis, la plus difficile à battre, parce que quand on a ces petites habitudes, ces circonstances habituelles, ces lieux auxquels on va tout le temps, et avec lesquels on a associé la cigarette, c'est difficile d'arrêter finalement. Donc ces trois raisons-là font que ça devient très difficile d'arrêter de fumer, mais il existe des solutions.
Absolument, il existe plusieurs solutions reconnues, efficaces. On peut parler des thérapies de comportementales et cognitives, aussi connues sous leur abréviation, les TCC, puisque comme tu l'as dit Mathilde, il y a aussi une dépendance psychologique, un petit plaisir associé à un moment, donc pour détacher cette dépendance psychologique, on gère le psychologique tout simplement. Donc une prise en charge, voilà, pour modifier son comportement, pour éviter d'associer la cigarette avec le repas, avec le café, avec les soirées par exemple. Mais également, pour la dépendance physique, il y a les substituts nicotiniques, que ce soit en gomme, patch, pastille, inhalateur, etc. Ils peuvent augmenter de 70% les chances d'arrêt. Après, tout le monde n'en a pas forcément besoin, mais pour les gros fumeurs, mais pour les fumeurs à haut volume de cigarettes, il y a effectivement des substituts nicotiniques. Et depuis début 2019, l'assurance maladie rembourse les produits de sevrage tabagique une fois qu'ils sont prescrits, que ce soit par un médecin, infirmier et même par un chirurgien dentiste. Donc c'est remboursé à 65%. Et il y a également des traitements qui agissent sur le système nerveux central. Ça c'est vraiment en dernière intention, mais c'est tout à fait possible. Ça s'appelle, attention c'est un peu des barbarismes pour nous non-carabins, non-médecins, et bupropion LP et varénicline, si je ne m'abuse.
Varénicline.
Absolument.
T'inquiète.
Je ne suis pas en médecine. Excusez-moi. Et puis il y a.
C'est pas grave, hein. C'est pas grave, il y a des gens bien ailleurs aussi.
Absolument, absolument.
C'est bien vrai.
Et donc voilà. Et nous, en tant que ERS, nous représentons le SSU et le SSU peut vous aider dans le mois sans tabac. Puisque l'objectif est de sensibiliser les étudiants au risque de tabagisme. Ce qu'on fait ici, certes en enfonçant quelques portes ouvertes, puisque c'est un sujet dont on parle souvent maintenant, mais c'est toujours bien d'avoir des rappels, et puis il est jamais trop tard pour arrêter. Il est jamais trop tard pour arrêter et pour commencer un nouveau chapitre plus sain de notre existence ensemble. Ça paraît un peu utopique, mais je le crois sincèrement.
Et puis, outre les thérapies ou les substituts nicotiniques, tout ça, avant tout, on peut essayer aussi la cigarette électronique ou l'acupuncture ou l'hypnose, d'autres moyens avant d'arriver aux moyens un petit peu plus, on va dire, protocolaires, tels que des thérapies ou carrément des substances qui agissent sur le système nerveux central.
C'est ça, tout à fait. Des solutions qui peuvent être parfois un peu controversées, mais qui, à chacun ses méthodes, tant que ça marche.
Tant que ça marche.
Voilà. Donc voilà, le SSU, on est là pour sensibiliser et aussi pour aider. Par exemple, en septembre, bon, on a fait quelques stands d'information sur le mois sans tabac. En octobre, on fait de la sensibilisation pour les inscriptions. Et n'hésitez pas à passer au SSU si vous êtes inscrit. Il me semble qu'on distribue des kits.
Oui, on distribue des kits, on distribue différents types de prospectus sur comment gérer son alimentation quand on n'a plus le tabac qui va avec, parce que le tabac, en fait, a un effet ou coupe faim un petit peu. Et du coup, le fait maintenant d'arrêter de fumer, ça donne vraiment envie de remplacer ça par de la nourriture. Donc, on propose d'aller voir sur mangerbouger.fr. Ils ont toute une rubrique justement de recettes à faire quand on est en sevrage tabagique. Voilà.
Absolument, mais la nourriture ne doit pas être l'ennemi non plus, puisque quand on arrête le tabac, on retrouve aussi nos papilles gustatives et on redécouvre des goûts, j'ai pas envie de dire comme avant, mais tout du moins avec plus de subtilité et plus de nuances et plus d'intensité également. Donc la nourriture, ça peut également être un plaisir et... Il ne faut pas avoir peur de, comment dire, grossir en arrêtant de fumer, ça peut être un mal pour un bien. Non, grossophobe, oh mon dieu, c'est pas un mal pour un bien, c'est pas mal de grossir. je suis désolé, je vais m'arrêter là.
Il faut savoir qu'il y a 15% des fumeurs qui arrêtent de fumer qui ne grossissent pas. Et du coup, ça veut dire que 85% grossissent, mais c'est l'histoire de 2, 3 kilos, pas plus. C'est vraiment... Le fait de retrouver des goûts, en fait, finalement, ça leur donne envie de plus manger. Et puis, tant qu'à faire, c'est mieux de se jeter dans la nourriture que dans le tabac. Donc, ce qu'on disait par rapport au SSU. Donc, en septembre, l'information du public sur le mois sans tabac. En octobre, l'inscription pour le défi. Donc, soit par téléphone au 3989. Désolée, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment important. Et, sur le site tabacinfoservice.fr. Et en novembre, du coup, vraiment le défi collectif tel qu'on l'entend. Et donc, du coup, en tant que RS, nous, notre rôle, c'est de relayer le message, donc ce qu'on essaie de faire là tout de suite, d'informer le public sur ces défis, du coup, les outils dont on parlait, et vraiment d'inviter le maximum de gens qui le souhaitent, surtout, ça c'est vraiment important, qui souhaitent arrêter de fumer, à s'inscrire au défi sur le site ou sur l'application, leur mettre à disposition les kits, et surtout leur conférer un soutien moral, en fait. Voilà, c'est un peu notre rôle.
Absolument, et on parle du SSU, mais on a oublié de préciser que c'est pas toujours connu. Le service de santé universitaire se situe donc au plat d'étain, à l'arrêt de bus Rabelais, ligne 5, etc. C'est certes un peu excentré, mais c'est très bien desservi, donc aucune excuse pour ne pas y aller.
Eh bien, grand merci à vous, Mathilde Bourris et Raphaël Suzanne, étudiants relais santé. Il est temps de terminer cette émission La Méridienne, qui a un petit peu débordé, mais pas grand-chose. Prenez soin de vous, chers auditeurs, et de votre santé. Et je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos programmes.